Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio G sur le 101.5 FM ou même sur notre site internet www.radio-g.fr. On est très heureux de vous retrouver pour une heure. Alors avec les aléas des directs et des studios, on va avoir 55 minutes maximum pour parler de sport avec l'équipe de Génération Sport. On n'a pas d'invité aujourd'hui, les gars. C'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. J'ai dit les gars puisque l'équipe est au complète. Cédric est avec nous. Ça va ce soir, Cédric?
Ouais, écoute, ça va. Hein, malgré que voilà, c'est pas forcément la joie dans le milieu sportif à l'image de l'actualité. Mais bon, on en parlera longuement ce soir.
Exactement, puisqu'on aura l'occasion d'évoquer le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez l'habitude d'en entendre parler depuis maintenant plusieurs semaines. Mais là, on va aborder un autre aspect. Évidemment, on va en revenir au sport. On va parler des conséquences et des sanctions qui ont été prises à l'encontre de la fédération russe de sport. Et puis, on va l'introniser également. C'est Alex qui sera à la régie ce soir. En forme également, Alex ?
En forme également. Désolé pour ce lancement qui a été assez hasardeux de générique. Mais en tout cas, voilà, tout se passe bien.
Tout se passe bien et tout va continuer de très bien se passer parce qu'on va faire un 1-2, le 1-2 habituel, mais on va essayer de détailler la situation du SCO notamment et puis peut-être des Ducs d'Angers, peut-être aussi du SCO handball. Donc on aura l'occasion de détailler ça dans l'1-2. Et puis comme je vous l'ai dit précédemment, on parlera du conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais du côté sportif, puisque là aussi il y a pas mal de trucs à dire, Cédric.
Oui, là, même à l'instant on a eu de nouvelles infos qu'on débloquera. C'est sûr, ça sera pas l'émission forcément la plus joyeuse qu'on va faire de l'année, mais bon, il fallait le faire. Au moins du point de vue sportif, on se mêlera pas des enjeux réellement.
Voilà, nous notre but là, ce sera pas du tout de parler du conflit en lui-même, mais plutôt des répercussions. Alors pas du tout sur le plan économique, politique, géopolitique, mais voilà, le sport a quand même sa place et a son mot à dire dans ces conflits, dans ces décisions. Donc on aura l'occasion de voir ça.
Oui, et puis il faut rester quand même jusqu'au bout parce que à la fin d'émission, il y aura une surprise.
Exactement. Une annonce qui concerne.
Est-ce qu'on spoil maintenant
l'équipe de France de football? Non, ça sera peut-être pour une autre émission.
Si on a de la chance, oui.
Qui concernera l'UFAB. On vous en dit pas plus.
Évidemment, restez connectés.
Voilà, restez connectés. Jusqu'à la fin de l'émission, et puis on vous dévoilera cette petite surprise.
Et puis bon, en fil rouge, il y aura le suivi du match des Ducs. Je sais pas à quelle heure il commence, s'il commençait à 20h aujourd'hui ou 20h30, mais en tout cas voilà,
on aura l'occasion.
La Ligue Manu sera encore au rendez-vous.
Et puis on a il y a de la Coupe de France, donc je sais pas si on pourra en dire deux mots, on verra en fonction. Max, est-ce que je commence le 1-2 maintenant?
Tu peux commencer le 1-2.
Eh bien on va le commencer ce 1-2 par du handball et le SCO qui reste collé à sa place de lanterne rouge de Pro League. Angers a grillé un nouveau joker ce week-end en déplacement à Caen face à un prétendant au play-off. Les Angevins ont lâché rapidement la rencontre alors que l'équipe emmenée par Issam Tej est en mal de points. Jamais en mesure de revenir au score, les Angevins s'inclinent donc 33-25. Une nouvelle lourde défaite qui plombe surtout le moral des troupes à 11 journées de la fin. La situation est très claire au classement. Seules 3 équipes semblent menacées par une relégation en National 1. Villeurbanne est 14e avec 10 points. Valence est 15e avec 8 points. Et enfin, Angers est 16e avec 6 points. Vendredi prochain, un match déterminé pour le maintien opposera les Villeurbannais et les Angevins à la salle Jean-Bouin. Une défaite des Noirs et Blancs pourrait enterrer définitivement les chances de maintien du SCO en deuxième division.
Du SCO handball ?
Du SCO handball, oui, du SCO.
Tu voulais dire un mot sur la rencontre justement, non ?
Ouais, sur la rencontre et puis surtout sur la situation du SCO actuellement. C'est vrai que c'est une situation vraiment périlleuse pour les hommes d'Issam Tej. Au niveau de, pour donner vraiment mon point de vue là-dessus, ça va être très compliqué. On a vu directement dans les différents résultats que Angers n'a pas le niveau de ne serait-ce que les équipes du milieu de tableau. de Pro League. Donc ça semble vraiment très 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 compromettant. Et face aux top équipes du championnat, c'est vraiment des défaites. On l'a vu, je crois, c'était face à Ivry, une défaite avec 20 buts d'écart. Ça montre que le SCO est peut-être pas à son niveau. Et en tout cas, voilà. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, comme on dit. Puisque, ouais, c'est ça. Et puisque, en fait, voilà, tout est jouable. Il reste 11 matchs. Mais c'est très inquiétant de voir chaque week-end des performances de plus en plus contraignantes. Il y a eu ces changements d'entraîneur. Il y a eu d'abord Kim Dupin, ensuite Issam Tej. Ensuite, il y a un duo Issam Tej et Denis Tristan. Donc, tout ça est très compliqué. Si je peux donner, en tout cas, un mot d'espoir, c'est vraiment ce week-end, ce match face à Villeurbanne, donc entre le 14e et le 16e, donc Angers. Et voilà, si Angers vient à bout de Villeurbanne, les Angevins reviendront à 2 points seulement de Villeurbanne, et donc ça pourrait tout changer sur la fin de saison et potentiellement être égalité avec Valence. Donc tout est possible, à mon avis tout se joue sur ce match. S'il y a une défaite d'Angers, c'est terminé à mon avis. En plus, moralement, ils seront au bout du rouleau. Et puis voilà, il restera aussi un match contre Valence, donc voilà, tous ces matchs-là, il faudra les gagner et aussi grappiller des points sur des matchs coup près et créer des surprises comme on l'a vu contre Billière et contre Cherbourg aussi dans la phase aller. Donc clairement, le SCO, ça paraît compliqué quand même sur le papier. Après voilà, il va falloir qu'ils se battent, il va falloir qu'ils se réveillent. Et en tout cas, si jamais vous êtes Angevin et que vous aimez le handball et le SCO handball, vraiment n'hésitez pas. S'il y a un seul match à aller voir à la salle Jean-Bouin en cette fin de saison, c'est vraiment le match face à Villeurbanne vendredi. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller supporter les Angevins.
Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris. On va continuer de parler du SCO et d'inquiétude, puisqu'on va parler du SCO football qui vit également pas des heures très, très évidentes. Le dernier match en date des Angevins, c'était dimanche dernier avec la grosse réception de Lens. Lens qui est une équipe très séduisante, une des meilleures équipes en termes de jeu sur ce championnat de France. Les Angevins qui menaient tout de même 1-0 avec un super but de Fulgini à la 49e minute de jeu. Et puis voilà, il y a eu des faits de jeu. Il y a eu Mohamed Alichaud qui prend un carton rouge, qui prend un deuxième carton jaune à la suite d'une simulation dans la surface adverse. Et puis après, il y a eu 2 buts concédés par les Angevins. Alors le premier, c'est Petkovic, le gardien du SCO, qui, aveuglé par le soleil, ne voit pas le ballon trop tôt et qui le dégage sur son défenseur, qui marque contre son camp.
Un vrai but gag.
Et puis le deuxième but encaissé donc par Angers, c'est un but de Jonathan Klaus qui lobe en fait qui lobe le gardien du SCO, Petkovic, mais on a quand même l'impression qu'il fait un mauvais jugement de la trajectoire. Donc malheureusement, le SCO s'incline 2-1 face à Lens, et il me semble que c'est la 5e défaite consécutive en championnat du SCO. C'est vraiment dommage, puisque on en a longtemps parlé de nos inquiétudes quant au début de saison, avec ce renouvellement d'entraîneurs, de staff, d'équipe. Au final, ça avait plutôt bien marché. Et là, le SCO qui est en train de dégringoler, ils sont actuellement 14e au classement de la Ligue 1. Alors, c'est pas encore alarmant, puisqu'on a 29 points et par exemple, 3 qui est 17e en a 22. D'ailleurs, le 17e, le 18e, le 19e et le 20e de Ligue 1 ont le même nombre de points. Donc voilà, on a quand même une petite marge de points, mais justement on va instaurer un petit débat, les gars, sachant que par exemple les prochains matchs qui arrivent sont quand même des rencontres importantes. Il y a un match qui va arriver face à Rennes le week-end prochain. Rennes qui, pareil, est une équipe séduisante. On va quand même pas voir le SCO dégringoler encore plus. Enfin, j'espère qu'on va pas voir le SCO dégringoler plus au classement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le SCO finalement peut encore plus descendre dans ce classement et même voir titiller la Ligue 2 dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que vous en pensez?
À titre personnel, c'est vrai que je pense que le SCO est quand même assez loin de cette zone. Après, voilà, comme tu as peut-être rappelé, on est à 8 ou 7 points.
On est à 7 points dernier de Ligue 1.
Il faudrait vraiment tout un concours de circonstances pour que le SCO soit dans ces places-là. Moi, personnellement, je vois quand même le SCO capable d'aller chercher des points et ils en sont pas loin. Non, clairement, après, c'est une période très compliquée quand même, qui va aussi déstabiliser le groupe. Et puis il y a pas mal de grosses équipes à mon avis qui vont arriver sur la suite de la saison. Donc voilà, et puis c'est surtout ce qui est inquiétant, c'est dans le jeu, parce qu'après les supporters du SCO, ils veulent que leur club se maintienne, mais ils veulent aussi venir au stade pour voir du beau spectacle. Et aujourd'hui, c'est même pas ce qu'il y a dans l'équipe de Gérard Baticle. Donc il faudrait déjà plus de plaisir pris par les joueurs, notamment en phase offensive où il y a assez peu de mouvement, et on a eu un éclair de génie ce week-end, mais ça reste quand même très pauvre. Et si en plus la défense fait défaut, c'est un vrai problème. Cédric, toi, t'en penses quoi?
J'ai envie de dire, c'est la classique du SCO. Tous les ans, la même période. Une fois que la trêve elle est passée, c'est rebelote. Ce qui était positif en première partie de saison, on le retrouve pas forcément. Je dis, il y a quand même danger. Il y a un gros danger, parce que quand on regarde le calendrier des matchs à venir,
il y a Rennes, il y a Reims.
Il y a Rennes, mais il y a Reims qui est juste au-dessus au classement.
Il y aura Lyon, Lille.
Il y aura le derby. Le derby, ouais. Pour l'instant, ça n'a pas été. Oui, à Nantes en plus. Il y a Clermont à jouer encore. Ouais. À l'avant-dernière journée, il y aura un Metz. Et quand on voit que là, qu'il y a quasiment que des gros qui vont se battre pour l'Europe, c'est pas très rassurant pour aller chercher des points. Il va falloir aller chercher les matchs nuls et sur les gros et contre les adversaires directs, oui, aller chercher les 3 points. Quoi.
Donc, et puis même jouer à une équipe comme Nantes qui fait une saison vraiment, vraiment bonne, hein, avec une super équipe et même des super individualités. Même contre ce genre d'équipe qui va pas jouer les grosses têtes pour jouer les places européennes, pardon, même ce genre d'équipe, ça va être très compliqué d'aller chercher.
Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que plus on arrive dans la fin de saison, plus les équipes sont motivées, surtout qu'en plus on a une Ligue 1 qui est cette année, et un peu comme sur la fin de saison dernière, on a une Ligue 1 qui est très 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 resserrée sur les tableaux européens. J'ai plus l'écart en tête, mais la journée dernière, il y avait 4 points entre la 4e et la 10e place, un truc
c'est
comme ça.
Strasbourg a 43 points pour la dernière place, on va dire, pour une qualification dans une coupe. Si tu regardes jusqu'à Montpellier qui est 11e avec 37 points, quoi. Enfin,
c'est énorme.
Même en dessous, hein,
le match du 17e au 20e ont même nombre de points.
Dans cette Ligue 1 qui est quand même assez homogène, c'est vraiment compliqué pour l'équipe qui ne joue ni l'un ni l'autre, enfin ni le maintien ni l'Europe d'aujourd'hui, d'aller chercher des points. Et donc comme je le disais, donc il y a cette course à l'Europe avec des très bonnes équipes partout, et le maintien avec des équipes qui vont être déterminées, qui vont sortir des matchs surprenants comme Saint-Etienne l'a pu faire en se réveillant des fois machin. Pareil pour Bordeaux qui a battu par exemple Strasbourg il y a quelques journées de ça quand même 4-3. Il y a des performances quand on joue maintien, on a quelque chose à jouer, donc on est dangereux. Et aujourd'hui, le SCO n'a plus rien à jouer, donc c'est peut-être la crainte. Et peut-être qu'ils se réveilleront quand ils auront quelque chose à jouer et que ça va devenir compliqué de ce point de vue-là.
Et puis bon, la possibilité, c'est parmi les trois qui sont en train de se battre pour sortir de la zone rouge, c'est peut-être sur le papier Metz qui va être le plus pénalisé quand même, parce qu'il faut qu'on en parle aussi de cette décision.
Avec leur entraîneur.
Qui est inadmissible au vu de la sanction, 10 matchs de suspension pour Fred Antonetti. On condamne le geste de se bagarrer, mais derrière, on avait quand même un directeur sportif et un président qui viennent dans un lieu où ils n'ont pas lieu d'être, qui se prennent 2 matchs de base ferme, plus 2 de suspension. Du coup, Metz est vachement pénalisé par rapport à ça. Donc, c'est peut-être l'équipe qui va finir, hélas, à la trappe. Et après, quand on voit Saint-Etienne et Bordeaux, c'est pas leur place du tout. Donc, ça va être dur pour eux aussi. Je vois plus Saint-Etienne quand même s'en sortir. Parce que Bordeaux, quand on sait aussi les problèmes financiers qu'il y a autour du club, est-ce que finalement, sportivement, aller chercher une place en Ligue 1, et puis si c'est pour être derrière relégué,
ouais, c'est sûr,
administrativement, c'est à voir, quoi. Mais en tout cas, ça fait plaisir quand même, ce championnat. Ça fait deux ans où je trouve, ah ouais, au moins, il y a de l'enjeu jusqu'au bout.
Il est vraiment compétitif.
Et voilà, puis, il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment très intéressantes à jouer, qui sont... En fait, il y a des équipes, on va dire qu'il y a, on va dire, un triptyque comme Lyon-Monaco-Lille, oui, c'est Lyon-Monaco-Lille, avec, enfin, qui jouait l'année dernière le titre et qui, cette année, sont moins bien. Donc, ils sont encore plus compétitifs, entre guillemets. Enfin, ils sont motivés. Puis, il y a des équipes un peu challenger comme Strasbourg, Lens ou Montpellier.
Bah, Lens qui confirme sa saison de l'année dernière.
Ouais, ça. Et qui ont quelque chose à jouer et qui veulent y aller à fond. Donc, limite, moi, ça me ferait, ce sera quand même triste de se dire que parmi ces 11 premières équipes, il y en a 5 qui vont pas jouer l'Europe. Donc c'est mais après, ça montre aussi que notre championnat, moi en tout cas, je trouve que notre championnat vraiment est un excellent championnat cette année.
Et puis même quand je vois même Marseille, Nice qui sont deuxième, troisième, mais qui quand même perdent des points, ouais, face à des plus petites équipes.
Bah, rien n'est fait pour eux.
Voilà, tu vois, c'est des trucs qu'on voyait pas forcément 3 ans, 4 ans en arrière. On voyait, le Paris Saint-Germain, même si c'est pas le grand Paris Saint-Germain et qui sont toujours en tête, bah, ils perdent des points aussi, quelques points à droite à gauche. Mais ouais, même, comme j'ai dit, même les équipes qui sont actuellement qualifiées pour les places européennes, bah, même elles, en fait, elles roulent pas, en fait, sur les plus petites équipes. Et par contre, ça offre vraiment des super matchs avec de l'enjeu, avec de l'ambiance et avec du jeu. Je vois des Marseille-Lens, même Lille-Lyon. Lille-Lyon, il y a peut-être eu des dingueries ce week-end, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais non, franchement, c'est une bonne saison. Et ouais, comme l'a dit Cédric, ça fait peut-être au moins deux saisons qu'on voit ça. Et ça fait du bien de voir du spectacle dans notre ligue.
Tu vas me faire une passe décisive parce qu'on va pouvoir parler du coup de la Coupe de France, mais Nice a tout à perdre ce soir.
Ouais. Nice qui joue Versailles.
Contre Versailles. Et en cas de victoire, c'est une qualification pour la finale de la Coupe de France. Donc, si les petits poussets, hélas, les battaient, c'est vrai que ça va leur faire sûrement un coup d'arrêt. Ouais. Et ça pourrait se retrouver sur la Ligue.
Et demain, ce sera Nantes-Monaco, donc ouais, pour l'autre.
Et pareil, Nantes, qui a tout à gagner. Ouais.
Voilà. On va pouvoir enchaîner, messieurs, avec le basket, alors que les joueurs de l'Étoile Angers Basket reprennent tranquillement le chemin de l'entraînement après une petite pause. Leurs homologues de l'UFAB se sont offert un succès majeur en déplacement à Latte Montpellier. L'entame de match était disputée, mais c'est bien Angers qui prend les devants à 16-10. Les Montpellierennes, qui évoluent en Euroleague cette saison, se sont réveillées lors du deuxième quart-temps face à des Angevines assez effacées. 22-3, hein, en 10 minutes. L'occasion pour le BLMA de repartir avec un écart de 13 points à la pause, 32-19. Après ce deuxième quart plus que laborieux, les joueuses de David Gauthier ont rattrapé leur retard petit à petit en seconde période. C'est dans le Money Time que la partie va se décanter avec une fin de match très tendue. C'est notre invité de la semaine dernière, Odé Rachidom, qui obtient deux lancers francs alors qu'il reste 6 secondes au compteur, et elle va les réussir et permettre à l'UFAB de l'emporter 60-59. Une victoire donc inespérée face aux vice-championnes de France. Et à noter que justement Odé Rachidom a terminé meilleure marqueuse du match avec 20 points.
On va parler des Ducs d'Angers maintenant. Cédric, t'en parlais en début d'émission, il joue ce soir, il joue à 20h30, donc dans 5 à 6 minutes, et c'est un match qui se déroule à la Ice Park contre Mulhouse. Et les Ducs d'Angers, ils vont entamer leur dernier leur rush, en fait, pour la fin de cette saison régulière, puisqu'il reste 4 matchs à jouer. Et depuis la semaine dernière, voilà, on a l'habitude de voir la Ligue Magnus et les hockeyeurs avoir un rythme effréné. Il y a eu cette défaite face à Grenoble dimanche 20 février, donc ça remonte un petit peu, mais pour le coup, cette saison en Ligue Magnus, il n'y en a pas énormément des défaites des Ducs, donc il faut le signaler. Et puis en une semaine, les Ducs ont joué 4 matchs pour 4 victoires. Mardi dernier, c'était une victoire 4-3 face à Chamonix. Mercredi, donc un jour plus tard, Angers a battu Mulhouse 2-1. Samedi dernier, Angers a battu Nice 2-1. Et dimanche, soit un jour après, les Ducs ont battu les Rapaces du Gap 6-3. Et donc, voilà, je le répète, match dans 5 minutes entre Angers et Mulhouse. Il reste vraiment très peu de matchs pour la fin de cette saison régulière de la Ligue Magnus. Bon, sauf grosse incompréhension, les Ducs devraient.
C'est fait pour les playoffs. Hein,
voilà, mais devraient. Ce serait bien aussi d'avoir cette deuxième place.
C'est la position qui.
Parce que les Grenoble va être impossible à aller chercher. 103 points que pour Grenoble, les Ducs en ont 88. Et juste derrière, il y a les Dragons de Rouen à 86 points, mais qui ont un match de retard. Donc c'est cette deuxième place qui va falloir aller chercher face aux Dragons de Rouen. Mais de toute façon, les Ducs finiront au moins à la troisième place, je pense, puisque après c'est Cergy Pontoise qui a 74 points et ça va être compliqué. Justement, est-ce que les Ducs affrontent les Dragons de Rouen? Il me semble que oui, avant la fin de la saison.
Oui, c'est cette semaine.
Donc voilà, là ça va être un match décisif pour cette deuxième place. C'est vendredi.
C'est vendredi, ouais, c'est ça.
Vendredi, après les Ducs rejoueront dimanche. Et
pour le dernier match.
Est-ce que c'est à l'Ice Park, monsieur, ce grand rendez-vous?
Non, ce sera à Rouen.
Mais par contre, on aura.
Angers-Grenoble
comme match dernier match de la saison régulière à l'Ice Park.
Donc ça risque d'être très gros.
Je pense que ce sera déjà en mode
play-off.
On passe l'oreille là-dessus.
Et est-ce que justement on a une date sur le début des play-offs, Cédric? Généralement, ça commence vers quelle période?
Ça va être dans la foulée, hein, quasiment.
Ouais, il va y avoir quand même un petit temps de pause.
C'est possible, oui. Après, j'ai pas le calendrier en tête. Je pense pas qu'il ait été mis à jour, en tout cas. Mais
si on le rappelle, l'année dernière, il n'y avait pas eu de play-off, si je me trompe pas.
L'année dernière, non.
Il y a deux ans.
Les play-offs, généralement, elles sont vers février.
À cause du Covid,
mais là,
l'année dernière,
comme il y a
pas
eu le Covid, il y a eu des matchs de décalé, ouais. Donc forcément, ça a décalé.
Il y a deux ans, est-ce qu'il y en avait aussi il y a deux ans?
Il y a deux ans, oui.
On
les avait commencés.
On perd en quart contre Rouen.
Non, elles ont été arrêtées.
Ah, elles ont été stoppées aussi.
Elles avaient été stoppées.
Ok.
Et donc du coup, il y avait juste eu un. Il n'y avait pas eu de titre, je crois, cette année-là.
Ok. Mais en tout cas, de toute façon, on peut en parler vite fait. Hein. Les gars des Ducs qui ont déjà une saison réussie, puisqu'on rappelle qu'ils ont remporté la Coupe de France, pardon. C'était l'objectif, gagner un titre. Ouais. Les playoffs, c'est aussi un très gros objectif.
Ah, c'est la
vous
première.
Y croyez, quoi, ce serait... Vous y croyez, pourquoi pas aller chercher le titre de la Ligue Magnus? Ce serait quelque chose d'exceptionnel.
Personnellement, je suis pas un expert, donc après je vais donner la main à Cédric, mais moi personnellement, d'un point de vue extérieur, ce qui je trouve un peu entre guillemets inquiétant, c'est que j'ai pas l'impression que Angers a su battre Grenoble et Rouen. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais face à ces grosses équipes là, on n'a pas le souvenir de voir les Ducs dans ces gros matchs là. Ça va être sûrement ce qui va leur faire défaut sur la toute fin. Donc je les vois bien faire une demi-finale, peut-être même la finale. Mais le titre, alors évidemment, je le souhaite de tout mon cœur, mais ça risque. Enfin, moi personnellement, je suis peut-être pas forcément positif. Après, comme je disais, surtout la saison est réussie. Mais bien sûr, ça pourrait être énorme de décrocher. Déjà de faire le doublé, ce serait énorme. Et puis de décrocher la première ligue Magnus du club, ce serait gigantesque.
Après. Rouen et Angers, c'est une grande histoire d'amour. Donc, tout est possible, mais.
Il me semble qu'on a battu Grenoble cette saison déjà.
Grenoble, je crois qu'il y a eu des victoires.
Après, en octobre, on bat Grenoble.
Et surtout, puis Grenoble.
Mais oui, c'est vrai qu'on
a eu beaucoup de défaites.
On a battu deux fois Grenoble cette saison.
Ah, ok.
Rouen, on va voir sur ce match-là aussi, parce que pareil, pour Rouen, ça va pas être un match de gala. Hein. Celui qui perd, de toute façon, à mon avis, finit troisième. Hein,
ouais.
Donc,
Mais là, pour te répondre, Alex, évidemment que les Ducs sont pas la meilleure équipe. Puisque je pense que objectivement Grenoble et Rouen, que ce soit sur le moment ou même ces dernières années, c'est vraiment les deux meilleures équipes de notre championnat. Mais le système de coupe a tellement bien marché en fait cette saison pour les Ducs, que je pense qu'une victoire en Coupe de France peut être un vrai élan pour aborder voilà cette phase d'élimination directe que va être que vont être les playoffs. Et surtout voilà, s'ils arrivent deuxième, même troisième en championnat, bah franchement, je pense qu'ils évidemment qu'ils ont leur carte à jouer, mais je pense vraiment qu'ils peuvent faire un coup.
Non, puis ne serait-ce que si on prend le bilan de février. 9 victoires sur 10.
Ouais, non, mais c'est clair que c'est les deux qui ont un super championnat.
Et puis bon, voilà.
Ils ont su enchaîner justement cette transition entre la Coupe de France et.
Là, on avait un peu peur, et ils l'ont fait avec brio.
Donc, c'est pour ça, après, là, les deux derniers, enfin, carrément, les deux matchs contre Rouen et Gap, ça va être des matchs pour préparer les playoffs. Enfin.
Ah, surtout que vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais
pas Gap d'ailleurs.
Grenoble.
D'accord. Parce que du coup, normalement, donc Angers, s'ils sont deuxième, ils jouent le septième, c'est ça?
C'est ça.
Et donc potentiellement Chamonix actuellement. Et s'ils sont troisième, ce sera plus Gap qu'on a battu en finale de Coupe de France.
Mais ça peut être très compliqué. Sachant que là, voilà, on les a réaffrontés, ça s'est bien passé, heureusement. Mais les playoffs, ils auront encore plus la rage
oui, c'est clair.
Contre Angers. Donc, non, je pense qu'on va avoir des belles playoffs hein, dans tous les cas. Mais,
Bon, messieurs, le temps file, il est déjà 20h31.
Oui, c'est vrai.
Et on est toujours à la partie locale du 1-2. On va enchaîner un petit peu avec du tennis. Et un événement quand même plutôt majeur dans le dans le circuit ATP, avec pour la première fois depuis plus de 18 ans un membre du Big Four, donc Murray, Federer, Djokovic et Nadal, n'est pas présent à la première place du classement ATP, et c'est Daniil Medvedev qui donc succède à Novak Djokovic qui a donc abandonné à sa place de numéro 1 mondial après sa défaite face à Jiří Veselý qui est 123e mondial. Alors donc c'était en quart de l'ATP 500 de Dubaï, et dans le même temps donc Medvedev jouait le tournoi d'Acapulco, également un tournoi ATP 500, et est arrivé en demi-finale et a perdu face à Nadal, qui a remporté d'ailleurs le tournoi 6-4-6-4 face à l'anglais Norrie en finale. Donc voilà, Djokovic qui donc surtout perd sa place de numéro mondial après quand même après déjà avoir battu le record avec 361 semaines passées sur le fameux trône de l'ATP. Donc c'est vrai que c'est assez c'est quand même un événement majeur et surtout un événement qui met en lumière cette passation de pouvoir entre on avait parlé dans Génération Sport, la next gen et l'ancienne génération du Big Four.
On va parler très rapidement de football et de la Ligue 1. On va revenir sur la 26e journée de championnat, qui était une journée un peu bizarre, puisqu'il y a quand même pas mal d'équipes qui jouent les places en Ligue des Champions, en Ligue Europa, qui ont perdu des points. Ça n'a pas été le cas de Rennes, qui continue sa bonne lancée avec une victoire 4-2 face à Montpellier. Nice, qui est un concurrent direct pour la Ligue des Champions, a fait match nul face à un autre concurrent, plus vers la Ligue Europa, face à Strasbourg. 0-0 entre les deux équipes. Le Paris Saint-Germain a battu Saint-Etienne 3-1. Monaco, également un prétendant à l'Europe, a perdu 2-1 face à Reims. Nantes et Metz se quittent sur un 0-0. Clermont-Bordeaux 1-1. Lorient bat Brest, 3 points très importants pour la lutte pour le maintien, pardon, victoire de Lorient 1-0. Marseille également a trébuché à 3, score final 1-1. Et Lyon également a perdu face à Lille 1-0. J'ai pas vu le match, messieurs, j'ai vu beaucoup de discussions sur l'arbitre, sur la VAR. J'ai même vu que Tony Chaperon s'en était mêlé, qui a dit qu'il serait pas étonné que l'arbitre de la rencontre ne soit plus arbitre la saison prochaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé clairement pendant ce match,
Il y a une erreur de la VAR, simplement.
On est à la 85e, il y a 1-0 pour Lille, il y a Léo Jardim, donc le gardien de Lille, hein, c'est pas l'ancien entraîneur de Monaco, qui rate son dégagement, et ça en fait Paqueta, donc on a l'impression qu'il le heurte, enfin qu'il le gêne. En tout cas, c'est vrai qu'après avoir vision de la VAR, il n'y a pas eu de faute de Paqueta. Donc il récupère la balle et marque dans le but vide. 1-1 à ce moment-là, donc c'est un but hyper important parce qu'on l'a parlé, il y a quand même un championnat très serré. Donc,
chaque point est très important.
Chaque point est très important. Ça aurait été 2 points en moins pour Lille, 1 point en plus pour Lyon. Peut-être même plus après si ça avait galvanisé les Lyonnais. Donc voilà. Et puis donc, le but a été dans un premier temps sont validés. Et après, la VAR a appelé Monsieur Turpin pour dire qu'il fallait qu'il vérifie. Et après vérification, il a décidé d'annuler le but. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le patron de l'arbitrage français, Monsieur Garibian, a signalé que effectivement, il n'y avait pas faute de Paqueta et que le but aurait dû être validé en faveur de l'Olympique Lyonnais et que voilà, c'est une erreur du VAR de M. Turpin et également de M. Lesage qui était donc dans ce camion VAR à ce moment-là du match. On rappelle que M. Lesage a été vivement contesté après sa performance pour le match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain, pardon.
Parce que le Paris Saint-Germain,
oui, non,
on sait pas où il est, lui.
Non, puis c'est surtout les images qu'ils ont pu lui donner.
Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est l'autre polémique,
qui sont
mauvaises.
C'est les images qu'il a eues n'étaient pas les bonnes.
C'est ça.
D'accord.
Pour expliquer,
voilà.
Parce qu'il y a eu le match d'il y a deux ans entre les deux équipes.
C'est ça. C'était...
Là, au niveau de la VAR, en fait, nous, on voit pas forcément toutes les images, mais comme tout est filmé plus ou moins, on va dire, à 360 degrés dans un stade maintenant, on peut jouer sur les angles. Et apparemment, là, il y a un angle qui donnait raison à une faute. Pour avoir vu sur plusieurs images quand même, je vois pas comment ils ont pu trouver un contact justifier une faute. Hein.
Bah en fait, ça, c'est que Paqueta...
Bon, quand on voit la caméra qui est carrément en face le gardien, on voit qu'il fait sa boulette.
Hein. Ah non, clairement. Puis ouais, il rate son dégagement, il rate tout. Et en fait, Paqueta est déjà là quand Jardim vient le heurter, en fait. Donc c'est une mauvaise décision de... Ça a des conséquences, voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué de blâmer l'arbitrage français quand le patron directement avoue que c'est une erreur. Donc voilà, après...
Ce qui est bien, c'est que ça permet d'avancer les choses, parce qu'au moins, il a reconnu qu'il y avait eu un souci là-dessus. Et ça ouvre des pistes, notamment hier, Jean-Michel Aulas sur l'équipe, qui disait qu'il allait faire des propositions dans ce sens-là pour essayer d'améliorer l'outil.
Ouais. Ah bah après, entre guillemets, s'il faut des erreurs comme ça pour améliorer, c'est toujours bien. Donc écoutez, ce qui est fait est fait, j'ai envie de dire. On ne rajoutera pas de points à l'Olympique Lyonnais. On termine avec du basket, puisque c'était les qualifications pour la Coupe du Monde. Cette fois-ci, la Coupe du Monde masculine qui va avoir lieu en 2023. Et l'équipe de France était engagée dans le groupe E de ce premier tour, parce qu'il y aura un second tour ensuite. Et l'équipe de France qui t'assurait donc de rallier ce deuxième tour après ses deux victoires face au Portugal. Une première victoire 94-56 en France. Et puis, 4 jours plus tard, les Français sont rendus au Portugal pour l'emporter 69-56. Donc voilà, les Français qui sont assurés d'aller au prochain tour de la Coupe du Monde et évidemment qui sont favoris pour au moins y participer. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire, à moins que Max... tu as le rugby.
On va faire un dernier mot sur le rugby, puisqu'il y a le tournoi des destinations et le 15 de France est vraiment, vraiment bien parti. Il me semble qu'au niveau du classement, on est même premier.
Premier, ouais.
L'équipe de France, le 15 de France, a réalisé une très grosse performance. C'était samedi dernier en battant l'Écosse 36-17. Donc, le 15 de France qui monte en puissance. Pour rappel, on avait battu l'Irlande 30-24 juste avant. On avait commencé le tournoi par une victoire 37-10 face à l'Italie. Donc c'est vraiment positif pour la suite. On se rappelle que l'an dernier, déjà le tournoi destination était vraiment positif pour le 15 de France qui a fini deuxième. Là, tout est possible. Le prochain match, ce sera vendredi 11 mars face au Pays de Galles. Et puis, on terminera ce tournoi destination par un crunch entre la France et donc le 15 de France et l'Angleterre, le 15 de la Rose, pour pourquoi pas décrocher un tournoi destination. J'ai plus la date en tête de quand le 15 de France avait remporté le tournoi destination pour la dernière fois. Ça doit dater d'au moins une dizaine d'années, non ?
Ouais, ça doit être ça. C'est déjà ce dernier match qui est très alléchant. Ça va être un bon rendez-vous.
Ouais, franchement, j'espère que le 15 de France gagnera face au Pays de Galles. Comme ça, justement, ça nous offrira une très belle finale.
Il y a un double enjeu, en fait.
La victoire finale.
Oui, mais surtout aussi le grand chelem.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un double enjeu, c'est gagner. Ça, c'est... Je pense qu'on est favori maintenant. Le grand chelem sera encore plus beau.
On connaît déjà le nom de l'arbitre ou pas?
Pourquoi?
Parce que Ces derniers temps, sur les matchs décisifs avec les Anglais, ça nous a porté la poisse, les arbitres.
C'est vrai.
Bon, voilà, fin de...
Et bah, ça a duré 39 minutes.
39 minutes, on a beaucoup...
C'est même plus une deux, là, c'est, on a fait un double.
Ah ouais, on a fait une mi-temps, quasiment.
Ouais, bah oui, c'est ça.
Donc, bon, voilà, on va se mettre une petite pause musicale. Vous en avez besoin, nous aussi. Et puis, on va reparler pour un sujet un peu moins gai, puisqu'on va parler, comme on vous l'a dit, des conséquences liées au milieu du sport. Les conséquences du
sport. Les conséquences de la guerre sur le milieu du sport.
Voilà, c'est ça.
Merci, Cédric.
Il a tout dit, parce que moi, j'ai rien pu dire, j'ai tout mélangé. Et voilà, pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après. Qu'est-ce que tu nous proposes, Alex?
On va s'écouter Alpha One avec le titre Philly Flingo. Et on se retrouve juste après.
C'est pour les gosses, crois pas aux histoires de chauve-souris. Je fais mes dièses et j'évite d'être trop rebelle, j'évite d'être trop soumis. Je suis un soldat, pas un mercenaire, et je sais comment la guerre se mène. Je pense à mes derniers jours, pas au nombre de ventes de la première semaine. Philly Flingo, collab avec Nigo, chante avec Migos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. Je sais pas le comique ou le mal comme X. Je rédige ma chronique dans le régime macronique. Enfant matrixé par Chris Cross. Maintenant je suis matrixé par les bruits de coffre. Je reviens sur les ondes, faut sortir des vrais sons. Le turfu a l'air sans son. Prochain confinement, il faut une maison. J'agrandis le réseau, je réduis mes liaisons. Je peux t'entraîner, je suis comme Greg Popovich. Faut suivre la cadence quand ça va trop vite. J'ai des nouveaux rajouts, des nouveaux prototypes. Des jaloux saboteurs aux yeux du crocodile. C'est en pleine lucarne que le donne la mise. Je proche de mes sous, ils sont comme la mif. Il faut que je blinde les miens, n'y touche pas au sniper, te flingue les mains. Billy Flingo, collab avec Nico, chante avec Mikos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. Ambiance électrique, genre 600 volts. J'entre dans la pièce, j'ouvre ma veste. Y'a deux oiseaux blancs qui s'envolent. Ça pue trop la victoire, ouvre la fenêtre. Parfum de victoire, nouvelle fragrance. On me demandait qu'est-ce tu feras grand. Moi je répondais, retraite et vacances. Je m'explose gratuitement pour la cause. Début d'une nouvelle parenthèse. J'entre dans la trentaine, en quarantaine. On sait que c'est faux, c'est l'ondier à l'antenne. Regarde la concu, je suis pas dans le thème. Les rivaux sont bu ou se font tirer dessus. Pion comme des canettes de 33 centilitres. Je te tranquillise, je me la raconte trop comme les gens qui lisent. La concu ne marche plus, on flingue les chambres. Je t'amène vers le luxe comme le rond-point des chiens. J'augmente le level gros. Fuite Prada avec le velcro. En toutes circonstances sur S-Pro. Le temps file, je quitte les aiguilles du cadran. Société décadente, tu le futur. Mère du 14, y'aura plus dans 4 ans. C'est en pleine lucarne que donne la mise. Je proche de mes sous, ils sont comme la mif. Il faut que je blinde les miens, n'y touche pas au sniper, te flingue les mains. Philly Flingo, collab avec Nico, chante avec Mikos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos.
Tundaba mixtape.
De retour dans les studios de Radio G pour la suite et fin de votre émission préférée, votre émission de sport préférée de notre grille Génération Sport. Il va nous rester un gros quart d'heure, messieurs, pour parler du conflit actuel sous un angle un peu différent, surtout un angle qui rentre dans le principe et le concept de l'émission. Évidemment, le conflit, hein, vous le savez, c'est celui entre l'Ukraine et la Russie. Alors là, on va pas du tout parler des côtés armés, des côtés invasion, les villes qui sont frappées. On n'est pas là pour parler de ça, on va parler de sport, parce qu'il y a des conséquences liées à cette invasion russe. Il me semble qu'Alex t'avait préparé justement une petite liste de ce qui se passe sur la planète sport en général, et puis nous on aura l'occasion de revenir dessus un peu après.
On peut peut-être faire avant que tu fasses le gros point, faire le point le plus évident et qui va être le plus simple à traiter, c'est le côté ukrainien. Donc forcément, c'est arrêt de tous les championnats.
Évidemment, puisque bon, ce n'est pas la priorité.
Voilà.
Évidemment.
Et pour tous les hommes, mobilisation du coup.
Avec la loi martiale.
Avec la loi martiale, entre autres, de défendre le pays. Les joueuses ukrainiennes, pour l'instant, peuvent toujours jouer des matchs. Je sais qu'il y a eu un geste, notamment, je crois, du tournoi de Lyon qui a lieu ou qui va avoir lieu.
Ouais, faut peut-être préciser, tu parles de tennis, là, c'est ça?
Oui.
C'est ça. C'est pour ça que je dis à tout le monde.
Qui a fait venir, justement, deux sœurs à ce tournoi-là. Donc, en tout cas, voilà, pour le côté féminin, ça n'a pas l'air d'être modifié pour l'instant. Elles peuvent toujours exercer leur métier de sportif.
Oui, voilà, on va faire un petit point, puisque en fait, ce conflit, on n'est pas, nous, des experts géopolitiques, mais en tout cas, ce conflit a des conséquences, évidemment, sur le milieu du sport, et on va en détailler quelques choses, avec notamment, donc, pour commencer, en football, avec l'arrêt du sponsoring de Gazprom de l'UEFA Champions League, mais surtout la suspension de toutes les équipes russes, de tout. Les compétitions de la FIFA et de l'UEFA, et notamment donc en Europa League, ça concerne le Spartak Moscou qui est éliminé du coup et qui va laisser le RB Leipzig aller en quart de finale. Et également surtout la Russie devait jouer les barrages de la Coupe du Monde et ne les jouera pas puisqu'ils sont suspendus, et donc voilà, pas de Russie à la Coupe du Monde au Qatar.
Ouais, c'est ça, ils sont exclus, ils sont pas suspendus, ils sont exclus.
Alors officiellement ils sont suspendus. Donc
définitif.
Non,
c'est pas du tout définitif.
C'est une suspension. Mais exclu, ça voudrait dire qu'il ne pourrait plus faire de Coupe du Monde.
Et en fait, donc suspendu, ça veut dire qu'ils ne pourront pas jouer au barrage. Et à partir du moment où ils perdent le barrage, ils sont éliminés.
Oui, ils sont exclus pour cette compétition.
Donc par exemple, s'ils sont plus suspendus avant le barrage, ils pourront jouer le barrage. Mais ce ne sera pas le cas, évidemment. Donc voilà.
On ne sait pas.
Mais en tout cas, voilà, au niveau du football, il y a eu pas mal de réactions. On ne va pas toutes les tailler en long, en large et en travers. Mais en tout cas, voilà, il y a eu surtout des sanctions. C'est en tout cas le plus important. Avec les équipes russes qui sont on le disait suspendues.
À noter que la FIFA avait pris une première décision, c'était de faire jouer
sur
terrain neutre pour les barrages.
Ouais. Terrain neutre, bannière neutre,
terrain neutre.
Et donc, hymne neutre.
Du coup. Enfin, hymne neutre, pas d'hymne du coup.
Ouais, ils pensaient à mettre Alpha One en hymne national.
Il y a toujours un hymne qui est joué, un peu comme au JO pour les équipes qui sont engagées sous les couleurs du CIO. Ça aurait été sur le monde.
Et donc, par rapport à cette première décision de la FIFA, évidemment, ça n'a pas plu. Puisqu'on attendait une décision bien plus ferme de la part de la FIFA. Et après ça, c'est l'UEFA qui, d'elle-même, a annoncé que le Spartak Moscou allait être disqualifié de la Coupe d'Europe. Et ensuite, la FIFA a décidé de prendre des décisions bien plus claires, bien plus précises et surtout bien plus fermes envers la Russie.
Et puis, à côté de ça aussi, l'UEFA et la FIFA ont décidé de rompre leur contrat
avec Gazprom. J'en ai parlé. C'est un aspect évidemment important. Au niveau du basket, pareil à peu près, avec l'Euroleague qui a suspendu donc le Zénith Saint-Pétersbourg, le CSKA Moscou et l'Unix Kazan, également en Eurocoupe avec le Lokomotiv Kuban. En balle, pareil, évidemment, les sélections russes et biélorusses cette fois-ci sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et en Ligue européenne également, Nantes avait déclaré ne pas vouloir jouer contre Tchekhov, qui est un club russe. Et un petit peu avant que le conflit n'éclate, le PSG n'avait pas pu affronter les Ukrainiens de Zaporozhye puisqu'ils étaient en zone de conflit. Pareil, au niveau du volleyball et au niveau du hockey, au niveau du hockey, la Russie, la Biélorussie sont exclus du prochain mondial. Donc c'est aussi un élément important. Pourquoi ? Parce que ça libère de place et l'une d'entre elles pourrait bénéficier à l'équipe de France. Donc on pourra peut-être suivre ça de près. Et en volleyball, alors c'est pas tout à fait ça, ils ont retiré l'organisation des deux prochaines étapes de la Ligue des Nations, mais pour le moment le mondial masculin est toujours programmé en Russie fin août. Et
moi, quelques polémiques. Il y a eu apparemment d'autres informations aujourd'hui comme quoi c'était annulé.
Alors donc ça, moi j'ai les infos du journal d'aujourd'hui, donc ça a été bouclé hier soir, donc ça a dû changer dans la journée. Et voilà, notamment en F1 également, Grand Prix de Russie annulé. En boxe, les fédérations majeures ne valideront pas les combats disputés en Russie. Et en judo, la fédération internationale a annulé le Grand Slam de Kazan. Donc voilà, il y a des décisions un peu partout. Et également, il y a une décision qu'on n'a pas parlé au niveau du football, c'est la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions qui sera
au lieu d'être à Saint-Pétersbourg.
C'est ça. Donc c'est important de le préciser. Alors on va pas dire qu'on peut s'en réjouir parce que ce serait être à côté de la plaque que dire ça, mais en tout cas.
Ouais, on peut pas se réjouir nous de recevoir une finale de Ligue des Champions quand il y a un pays qui est en guerre et voilà. Mais par contre, cette finale de Ligue des Champions, il y a eu des pourparlers importants, puisque à la base c'est Boris Johnson, hein, Premier ministre britannique, qui avait annoncé que elle allait probablement se tenir à Londres. Et après ça, il y a eu, alors apparemment, ce serait Emmanuel Macron en personne qui aurait,
ça aurait négocié,
fait les pourparlers, voilà, pour obtenir cette finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est, même si voilà, il y a le conflit actuel, c'est une bonne nouvelle pour le sport en France d'avoir une finale de Ligue des Champions. Mais voilà, évidemment qu'on va pas se réjouir dans l'état actuel des choses. C'est un point positif, mais comparé au reste, c'est rien du tout.
C'est évidemment secondaire. Et de toute façon, on verra comment le conflit évolue.
Je vais faire un petit complément par rapport à ce que tu disais sur la F1. Puis ça nous permettra d'avoir un petit débat aussi derrière. C'est le sort du jeune
Mazepine.
Puisque voilà, de nationalité russe, il y a une réunion exceptionnelle qui va avoir lieu soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir, pour statifier, pour savoir s'il va pouvoir participer à cette saison, sachant que déjà AS avait retiré le sponsoring
Sponsoring russe.
Oui, qui était l'entreprise que gérait son père. Donc voilà.
Et en plus, son frère, je crois que c'est un proche de Poutine.
C'est ça, il y a des histoires comme ça.
Comme Abramovitch, propriétaire de Chelsea.
Abramovitch, il a lui-même légué.
Voilà, il a cédé.
Délégué, justement.
Voilà, lui, qui pour le coup est un vrai proche du gouvernement russe, des oligarques russes, et donc voilà, il a senti le vent en poupe, voilà, pour utiliser une bonne expression. Il a eu le vent en poupe et du coup, je suis même pas sûr que c'était l'expression.
C'est plutôt l'inverse.
Il a pas le vent en poupe. Tes sourcils français, je me dis, qu'est-ce que j'ai dit encore?
C'est plutôt l'inverse.
Il a senti le vent tourner.
L'Union européenne a décidé de geler tout ce qui était financement. C'est pour ça des gens qui indirectement ont rien à voir avec ce conflit-là se retrouvent concernés aussi bien dans les milieux financiers que ça.
Donc voilà, oui, vas-y.
Et du coup, oui, la question, c'est de savoir la place du sportif dans tout ça. Pourquoi en fait on en est rendu là? C'est que, entre autres, Vladimir Poutine a quand même misé son image sur la réussite du sport.
Évidemment.
Un peu à son image, on sait, voilà, c'est un judoka, on l'a vu avec un certain niveau. Et du coup, en fait, derrière cette condamnation d'interdiction, en fait, le message que les différentes fédérations veulent faire passer, c'est que, si un Russe réussissait dans une compétition, c'était pas son image personnelle, mais c'est l'image, en fait, de la Russie.
Et c'est pour ça que...
Et c'est pour ça, voilà, que ça peut faire débat.
Justement, on va avoir quelques minutes pour en débattre. Est-ce qu'on doit, aujourd'hui, que ce soit en foot, mais dans les sports individuels notamment, exclure tous les athlètes russes? Je pense notamment à Medvedev, qui, t'en as parlé Alex, est devenu, qui a réalisé un exploit quand même de devenir numéro 1 mondial au classement ATP.
On a eu des news comme quoi il sera autorisé.
Il aura l'autorisation de participer. Par contre, la Russie a été exclue de la prochaine Coupe Davis, évidemment. Mais est-ce que on doit bannir ces joueurs de toute compétition seule et bonne raison qu'ils soient russes et qu'ils appartiennent et que leur nationalité soit un pays qui a décidé d'envahir un autre? T'en penses quoi, toi?
C'est vrai que c'est compliqué, dans le sens où, comme tu le disais Cédric, le but premier de ces suspensions, c'est de ne plus avoir l'image de la Russie, c'est-à-dire ne plus avoir le drapeau, ne plus avoir une équipe qui représente la Russie. Ils veulent plus avoir ça, même des organisations, enfin, ils veulent pas aller en Russie, donc avec les délocalisations d'événements. Mais c'est vrai que sport individuel, la question se pose, parce que ça se trouve, il y a des sportifs qui supportent pas Poutine. Ils sont nombreux,
qui était une nouveauté, c'est qu'ils osent manifester ouvertement.
Bien
puisqu'on
sûr.
Sait, je pense notamment à un hockeyeur, j'ai plus son nom en tête, mais qui s'est fait blacklister parce qu'il l'a ouvert clairement contre la politique de Poutine.
Et moi, je pense que, entre guillemets, la solution sur les sports purement individuels, ce serait de ne pas avoir de signes ostentatoires qui supportent la Russie. Donc, par exemple, pas de drapeau, d'essayer de ne de pas sortir.
Une identité notoire.
Un peu
comme les On voit surtout au JO d'été ceux qui sont réfugiés politiques,
c'est ça,
ou des choses comme ça, qui courent sous la bannière olympique. Ouais.
Bah parce que du coup, en fait, c'est ça, c'est que dans les sports individuels, ils ont pas de maillot russe entre guillemets, ils sont juste de nationalité russe. Donc après, le tennis, c'est ça, c'est un sport particulier, donc à la fois oui, à la fois non, parce que on voit aussi que derrière, s'ils jouent contre les Ukrainiens, enfin ou contre les Ukrainiennes, ça pose aussi des problèmes, parce que c'est vraiment Ukraine-Russie, quoi. On l'oublie pas. Donc pour moi, c'est un sujet très touchy.
On a vu des messages qui allaient dans le sens quand même de l'apaisement, en tout cas au niveau des sportifs entre eux. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de tension
à voir. Mais il y a aussi pour moi un élément important, ça ne rentre peut-être pas dans cette question-là, mais en tout cas, la Russie a quand même brisé
la trêve olympique.
La trêve olympique. C'est quand même quelque chose de. C'est un événement, puisque la trêve olympique, c'est quand même quelque chose de hyper important.
Il ne faut pas briser que ça.
Oui, non, mais en tout cas, au niveau du sport, parce que là, on est vraiment focus sur le sport.
Et c'est pour ça que le CIO a été dans les premiers à réagir.
Et c'est pour ça que ça peut être un argument plus pour suspendre les athlètes russes.
Parce que pour eux.
Et en fait, pour expliquer un peu, la trêve olympique, elle démarre de 7 jours avant le début des Jeux Olympiques et ça s'arrête 7 jours après ce départ-là. Les paras n'ont pas commencé.
Je crois que c'est à la fin des JO. Paralympique.
En tout cas, voilà, c'est un autre élément qui peut peser en faveur de la suspension des Russes.
Ouais. Moi, pour donner mon avis très brièvement, d'un côté, en fait, je trouve ça un peu scandaleux de bannir quelqu'un juste parce qu'il est russe. Maintenant, comme tu l'as pointé du doigt et de manière très vraie, Cédric, aujourd'hui, le sport a une place tellement importante dans le monde, mais en Russie surtout, que ce soit à l'heure actuelle avec Poutine qui place le sport à un grade très haut, qui place le sport vraiment à une très haute échelle.
Là, oui,
et même historiquement avec l'URSS, ça a été un terrain de guerre froide quand même, le sport face aux États-Unis. Et aujourd'hui, le sport est un très bon moyen pour faire passer des messages politiques. Donc, est-ce que la meilleure décision possible serait pas de bannir que ce athlète russe individuel, collectif, de toute compétition jusqu'à nouvel ordre, pour frapper un grand coup, le plus grand coup possible en tout cas que le monde du sport puisse donner. Donc voilà, on n'aura pas la réponse, mais bon, visiblement Medvedev pourra concurrencer, enfin pourra jouer. Évidemment sous bannière neutre, puisque comme tu l'as dit, c'est pas trop déshabitué pour avoir des maillots russes, puis je pense pas qu'il le fera en ce moment.
Puis continuer à émettre la parole qu'il a émis depuis ces derniers jours.
On va enchaîner rapidement, puisque l'émission touche à sa fin, il est 57. La fameuse surprise, c'est. Enfin, l'annonce.
Oui, c'est vrai.
La grande annonce, on allait l'oublier.
Si vous avez attendu, franchement, chapeau. Puisqu'il n'y a rien du tout, Alex, c'est ça, hein, pas de surprise.
Eh bien, si, Max, puisque samedi prochain, samedi 5 mars, de 20h à 22h, vous retrouverez un direct exceptionnel en direct de Jean Bouin, donc un nouveau match de l'UFAB 49 sur Radio G. Ce sera contre l'ASVEL, qui est une autre équipe qui joue les premiers rôles. Elles sont actuellement leaders du championnat. Et voilà, ça va être un très très gros match, un très beau match.
De gala.
Un match de gala, comme on l'avait vu sur le premier match contre Basketland. Donc voilà, on vous régale ici à Génération Sport. Donc voilà, ce sera une très belle partie. Messieurs, vous avez hâte d'y être ?
Oui, vu surtout comment ça s'est passé la dernière fois, c'était vraiment cool. On a enfin pu revivre ces moments-là qu'on avait pu. Qu'on nous avait en fait enlevé à cause de cette période sanitaire. Donc,
puis on sera dans de meilleures conditions, je pense. En tout cas, en termes d'ambiance et du nombre de personnes qui vont venir.
Ouais, déjà que l'ambiance était vraiment pas mal contre Basketland et que qu'il y avait pas mal de monde. Bah là, je pense que vu que c'est les premières puis c'est comme tu l'as dit, match de gala. Donc je pense que ça va être un super moment et on vous attend bien évidemment nombreux ce samedi. Mais de toute façon, on aura l'occasion de partager l'information.
Quel que soit le résultat, je pense qu'on aura du beau basket.
C'est ça. Et donc on se donne rendez-vous samedi prochain à 20h sur Radio G et sinon mardi prochain aussi à 20h sur Radio G. On vous laisse avec la suite des programmes et on se dit à samedi prochain.